Palabre
en forêt,
l'émission
L'Auxerre-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Palabre en forêt. Vous êtes bien sur Radio Barthès 107 FM. Bonjour Virginie.
Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous.
Alors, on va commencer cette émission par donner quelques petites infos sur la fête de la forêt qui approche grandement. On vous a déjà rapidement évoqué dans les émissions précédentes. Donc cette fête de la forêt, elle aura lieu les 12 et 13 mai prochains à Florac et Bar-des-Cévennes. Donc le 12, ça sera à partir de 18h au château du Parc à Florac pour une soirée de lancement sur la thématique des forêts et des changements climatiques, avec une conférence de Jean-Michel Boissier intitulée donc « Quel avenir pour nos forêts ?», suivie d'une table ronde avec le Parc national des Cévennes, l'Office national des forêts, le Centre régional de la propriété forestière, l'association SOS Forêt Cévennes et le syndicat des exploitants et des scieurs du Gard et de la Lozère. Et pour clôturer la soirée, on aura un petit buffet forestier. Et puis le gros de la fête sera donc le 13 mai à Bar-des-Cévennes, où on aura un programme d'animation assez riche, avec des animations pour les enfants, des démonstrations forestières, des expositions de machines. Vous aurez la possibilité d'interagir avec les acteurs forestiers locaux. Le programme sera bientôt diffusé, peut-être déjà diffusé à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site forêt au singulier, causseven au pluriel.fr, forêtcausseven.fr.
Pour aujourd'hui, on va accueillir Alain Prochaska, qui est technicien forestier à l'Office national des forêts, à l'unité Cévennes 16, donc qui est basée à La Grand-Combe. Et après, on rejoindra Aymeric avec sa fameuse rubrique « Plantes et animaux des bois ». Et donc, nous accueillons Alain, qui est ici, en studio, à Florac. Bonjour Alain.
Bonjour.
Nous profitons des derniers jours où tu seras présent, parce que c'est bientôt le moment du départ pour toi à la retraite. Et on fait donc une petite rubrique Homme des bois. On va parler de toi, de ta carrière. Et déjà, pour commencer, comment es-tu arrivé à travailler en forêt et qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu t'es lancé dans une carrière forestière?
Il y a beaucoup de réponses à cette question. La première, c'est que je suis un enfant de la forêt et de la rivière. J'habitais un petit village de la basse vallée de la Cèze. Et très rapidement, j'ai couru les bois et à la recherche de champignons, les ruisseaux à la recherche d'écrevisses, la rivière à la recherche de petits poissons à pêcher. C'était chez moi tout à fait naturel de vivre au milieu de la nature. Et donc, et j'ai une très grande admiration pour le monde des arbres. C'est quelque chose qui me passionne et qui, dès l'enfance, m'a impressionné.
T'es tombé dedans tout petit.
Ouais. Ou j'ai grimpé dedans tout
ouais.
petit. Et du coup, tu as suivi une formation forestière pour
oui.
devenir technicien forestier.
Oui. On va dire que j'ai eu un changement de parcours après avoir passé mon bac. Et après une année un peu laborieuse aux Beaux-Arts d'Avignon, j'ai pensé qu'il fallait que je change de voie parce que finalement je ne trouvais pas ce que je recherchais à ce niveau-là. Et comme j'aimais la nature, j'ai dit je vais travailler en forêt, qu'est-ce que je peux faire pour travailler en forêt? Et donc j'ai passé, j'ai été en école forestière à Montélimar pendant 2 ans pour passer un BEP option sylviculture, un BEP agricole option sylviculture. Et voilà, et du coup, ça m'a permis après de passer un concours pour rentrer à l'Office national des forêts, à une époque où on pouvait rentrer assez facilement. Et c'est comme ça que ça a débuté.
Et il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué, que tu te rappelles particulièrement au cours de cette formation forestière ?
On va dire que je rentrais peut-être avec mes illusions et mes rêves. J'avais fait tout simplement parce que j'aimais la forêt et les arbres, mais j'étais pas j'étais pas certain d'aimer forcément le métier de forestier tel qu'on me le présentait. Diriger des exploitations, faire de toutes ces choses-là, c'était pour moi pas finalement ce que je rêvais. Et ce qui a peut-être finalement guidé après ma vie de forestier.
Et ben justement, entre ton début de carrière et aujourd'hui, la manière de faire ton travail, il y a eu du changement, ça a évolué.
Alors, j'ai commencé en Côte d'Or, en Bourgogne, dans la chaînée.
Ah oui, les beaux chênes de Bourgogne.
Voilà. Et j'étais, on va dire que j'étais, voilà. Donc en fait, j'ai eu du mal un petit peu à m'adapter dans ce pays-là. Donc j'ai essayé assez rapidement. De revenir vers le sud. J'avais vraiment envie de travailler en forêt méditerranéenne. C'était un peu mon credo. Et bon, j'ai eu du mal. J'ai mis 5 ans pour pouvoir revenir. Et bien évidemment, je n'ai pas retrouvé de place à l'Office national des forêts parce que les places étaient chères à l'époque dans le sud de la France. Mais j'ai trouvé un poste à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans la cellule forêt. Donc c'est là que j'ai, donc à Nîmes, dans le Gard. Et c'est là que j'ai repris mon métier de forestier. Je dirais presque un métier de reboiseur méditerranéen. Après les incendies, notamment, il y a eu une très grande période d'incendies, dont un des plus importants était l'incendie de Porte, qui marque encore les esprits. Mais il y en a eu un peu partout, notamment dans toute la partie garrigue. Et il y a eu derrière de grandes campagnes de reboisement. Notamment, que ce soit des reboisements dans les communes, dans les forêts communales, mais aussi chez les privés. Et donc, en tant que forestier en direction départementale de l'agriculture, on travaillait beaucoup avec le CRPF et donc chez les propriétaires forestiers privés. Donc, on faisait de la maîtrise d'œuvre.
Et ouais, ça, c'est un changement. Ça ne se fait plus aujourd'hui.
Beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins parce que à l'époque il y avait beaucoup d'aide. On pouvait financer jusqu'à 80% des travaux, ce qui permettait à beaucoup de gens de pouvoir se lancer dans l'aventure. Maintenant les aides ont beaucoup diminué et donc la part d'autofinancement fait qu'il y a peu de vocation. Mais à l'époque, il y en avait pas mal et on avait beaucoup de reboisement à mettre en place. J'ai fait pas mal de maîtrise d'œuvre. Donc là, c'est intéressant parce qu'on travaille comme un architecte qui construit une maison et qui la livre clé en main. Là, on construit une forêt. Derrière des incendies ou derrière des landes, des friches, des garrigues dégradées, essayer de reconstruire une forêt, c'était juste fabuleux.
Et tu as déjà évoqué ton rapport déjà dès l'enfance très fort avec la nature. Tu as parlé de rivières, de forêts, de ruisseaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en particulier de ton rapport avec les arbres, du coup, que tu côtoies de manière quotidienne ?
J'ai un rapport très particulier avec les arbres. Je n'ai pas besoin d'expédients interdits par la loi pour rêver de parler aux arbres. Et j'ai cette espèce de sensibilité, je ne sais pas. Les arbres me parlent.
Ah oui.
Alors, pas, évidemment.
Pas le même langage.
Pas le même langage, mais je ressens les choses. Mmh. Un arbre qui souffre, je le sens. Ou je le vois. Mmh. On circulait en voiture et je t'ai dit là-bas, il y a des dépérissements. Ouais. Alors qu'ils n'étaient pas morts, les arbres.
Non.
Mais je sentais qu'ils n'étaient pas en grande forme.
Ouais.
Et voilà, je suis toujours très inquiet, surtout en cette période. Mmh. J'ai toujours ce regard sur les arbres en disant. Est-ce qu'il va tenir le coup ? Est-ce que surtout des vieux arbres ou des arbres qui sont pas dans les conditions les plus optimales,
oui.
Mais qui ont atteint la sagesse des vieux arbres et la fragilité aussi des vieux arbres. Et j'ai cette sensibilité d'approche qui fait que. C'est pour ça que des fois, le métier de forestier, qui est un métier aussi de producteur de bois, c'est pas... Bon, je le fais, parce que c'est mon métier, c'est mon travail. Mm-hmm. Mais si je peux faire autre chose à côté, je ferai autre chose.
Okay. J'ai une petite question par rapport à... Est-ce qu'il y a un arbre parmi tous ceux que tu as rencontrés dans ta carrière qui t'a plus marqué, ou une essence forestière qui te touche plus que les autres ?
Alors, on est au cœur des Cévennes. Ça va être une réponse complète qui va paraître complètement bateau et anodine, mais c'est le châtaignier.
Bingo.
Mais alors, c'est pas du tout le châtaignier cévenol.
Ah bon ?
Moi, je suis un enfant de la plaine rhodanienne, au milieu des petits plateaux calcaires des Garrigues. Il y a des poches siliceuses. De sable, d'argile, dont la plus connue est la forêt domaniale de Valbonne, avec sa hêtraie, par exemple. Et moi, j'habitais juste à côté, et il y avait des châtaigniers dans ces zones-là.
Ah, c'est fou!
Et j'étais. Alors, c'était une époque où il n'y avait pas de maladies comme maintenant, il n'y avait pas le chancre, il n'y avait pas tout ça. Et donc, il y avait de vénérables châtaigniers qui avaient peut-être 300, 400 ans, sous lesquels on ramassait encore les châtaignes et tout ça. Un peu à l'image des châtaigneraies dans les Cévennes, sauf que ce n'était pas du tout un paysage cévenol, puisque tout autour, on avait les chênes verts, des garrigues. Mais un micro-paysage avec du pin sylvestre endémique dans cette zone-là, du châtaignier qui avait donc été planté mais il y a très 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 longtemps, et puis des bruyères, des calunes, tout le cortège des terrains acides, et dans lesquels on ramassait, parce que j'étais un fou furieux du champignon, donc on ramassait une foultitude de variétés de champignons. Moi, mon challenge, c'était de trouver des champignons comestibles que les gens ne ramassaient pas. Donc je m'étais plongé dans le Larousse des champignons, et donc je ramenais à la maison, sous l'œil inquiet de ma mère, des paniers de champignons. Je me dis, c'est quoi ça ? Mais si, maman, t'inquiète pas, on peut cuisiner, c'est bon. Et voilà. Donc, c'était vachement... Pour moi, c'était des... Ces vieux châtaigniers, c'est vraiment ce qui accompagnait un peu le paysage forestier de mon enfance. Mmh. Voilà. C'est pour ça, je pense, qu'il m'a marqué. Et puis, graphiquement... Ouais. L'esthétique de ces vieux arbres est absolument extraordinaire. Les fibres torses qui font que les écorces tournent autour de l'arbre. Les gros moignons, parce que bon, c'est des arbres qu'on a taillés, qu'on a coupés, etc. Les gros bourrelets, les grosses boursouflures qui donnent un aspect presque de humain, je dirais. Des fois, on avait l'impression de voir un visage, de voir... Et puis, ces trous avec des chouettes. Moi, je me rappelle de chouettes culottes qui s'envolaient au passage. Voilà. c'est vraiment l'arbre, c'est presque l'arbre, l'arbre de Gandalf,
l'arbre magique.
L'arbre magique. En tout cas, c'est comme ça, je le percevais.
On nous a dit que tu avais un faible pour les forêts anciennes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Ça serait très long à expliquer pourquoi. Mais en fait, forêt ancienne, c'est juste ce que devrait être toujours la forêt. Parce que la forêt telle qu'on la connaît, même les forêts les plus naturelles, entre guillemets, qu'on connaît, ne sont pas des forêts anciennes. Nous n'avons plus de forêts anciennes.
En France, oui, il n'y a pas de forêt primaire.
La seule forêt primaire qui existe en Europe, la Białowieża, la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, sale frontière en ce moment, puisqu'elle est séparée, cette forêt est séparée par une barrière physique pour empêcher les migrants de rentrer en Europe. Et donc, déjà, on l'a coupée en deux.
Ah oui.
Et en plus, elle est menacée par des coupes, parce que le gouvernement polonais a décidé de commencer à exploiter cette forêt, qu'il faut le dire, a plus de 1000 ans, sans exploitation, sans intervention humaine. Ouais. Et c'est une forêt telle qu'on devrait avoir autour de nous, au moins avoir chez nous une forêt comme ça. Je pense qu'on a du mal à imaginer la richesse qu'on peut avoir et ressentir cette harmonie qui s'est installée entre tous ces arbres qui sont connectés entre eux, entre cette faune et cette flore qui n'est possible que parce que la forêt est très ancienne. Il faut très très longtemps pour que le sol puisse avoir cette richesse qui permet toute cette vie derrière. Et c'est voilà. Moi, j'ai pas de mots pour expliquer ça. Et je sais qu'il y a un projet en France conduit par un botaniste qui s'appelle Francis Allais, Montpellier, qui voudrait effectivement mettre en place une forêt primaire à cheval sur la France et un autre pays. On cible l'Allemagne ou la Belgique, donc ou les Vosges du Nord ou les Ardennes, et pour que justement dans 800 à 1000 ans on puisse avoir une forêt primaire sur le sol européen occidental.
Et oui, la forêt, c'est la patience.
Là, c'est l'école de la patience et de l'humilité. Ce qu'on a, on n'a pas fait preuve. L'humain ne fait preuve ni de patience ni d'humilité face au milieu naturel. Et là, il a complètement transformé, en fait, cette forêt primaire. Maintenant, on n'a plus que des forêts secondaires, bien moins riches, très pauvres en diversité, plutôt pauvres en diversité par rapport à ce que ça devrait être au départ. Pour faire simple, dans nos forêts, on ne peut pas imaginer avoir des bisons.
Non.
Ni des aurochs, ni tous ces animaux qui vivaient dans nos forêts,
oui.
Avant que dans ces forêts primaires qui existaient donc chez nous, avant qu'on ne commence à défricher, avant les grandes campagnes de défrichement qui se sont faites dans le temps. On ne peut pas imaginer avoir rencontré un lynx, un loup ou un ours comme ça, aussi facilement. Nous, quand on a quelques lynx qui arrivent à survivre, ils sont tellement furtifs qu'on a du mal à les voir. Les loups, ils reviennent, mais avec tous les problèmes qu'il y a derrière. Et je suis à Florac et je sais de quoi je parle ici, puisque le loup commence à s'installer dans la zone Cévenoles. Voilà, donc ça prend des dimensions telles que c'est difficile à décrire.
Et on vous propose du coup une petite pause. On va te rejoindre après. Et tu nous as choisi une musique, Alain. Qu'est-ce que tu as choisi?
Alors, ça m'est venu comme ça, tout bêtement. Alléluia de Leonard Cohen.
À tout de suite.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Vous êtes toujours sur Radio Barthès 107 FM dans l'émission Palabre en forêt. Nous sommes avec Alain Projaska, technicien forestier à l'Office national des forêts et très bientôt en retraite. Donc on a une ou deux questions un peu rétrospectives sur ta carrière. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment un peu triste que tu as pu vivre? Parce qu'après on va poser la question sur le meilleur moment de ta carrière. Donc on commence par le moins rigolo.
Peut-être, alors curieusement, moi, la chose la plus triste que j'ai pu ressentir, c'était en 1985, justement. Et j'écoutais la radio, j'étais en train de dessiner. C'était en fin d'après-midi, j'étais en Côte d'Or. Et j'entends à la radio qu'un énorme incendie est en train de ravager les Cévennes. Et du coup, j'ai peint un feu qui brûlait tout. Je crois que c'est un moment où, oui, j'étais vraiment triste, en me disant, c'est pas possible, quoi. Ça puisse arriver comme ça. Et qu'on puisse, finalement, on peut pas faire grand-chose face à un déchaînement. Et voilà. Après, j'ai appris à vivre avec le feu, parce que en tant que forestier méditerranéen, on y est confronté quand même très souvent. Pratiquement tous les étés, il y a des incendies. Alors, heureusement, tous ne font pas 5000 hectares ou plus. Mais donc le dernier en date est celui de Bordezac. Mais c'était ce premier incendie-là, dans ma mémoire, c'est celui certainement qui m'a rendu le plus triste face à un événement qui a atteint la forêt, quoi.
Et du coup, le plus joyeux?
Un moment le plus joyeux, il y en a plusieurs, en fait. On peut pas... Enfin, quand on est forestier... Ça peut être trouver une plante, et là je regarde Aymeric, trouver une plante qu'on n'imaginait pas du tout à cet endroit-là. C'est d'entendre un oiseau qu'on n'imaginait pas non plus à cet endroit-là. Ça, c'est des moments joyeux, quoi. De trouver une petite source avec des petites mousses, des petites fougères minuscules, on s'attend à avoir une petite fée à côté. Ça, c'est des moments joyeux. Les moments joyeux, il y en a partout, il y en a tout le temps. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, ça compense le skieur qui tire des grosses brumes et qui arrache tout ça. Ça, c'est le moment le plus triste.
Et justement, on vient de parler de fées. Et si tu avais une baguette magique, Alain, qu'est-ce que tu changerais à ta carrière ou pour l'avenir de ton métier? Enfin, si tu avais envie de changer quelque chose.
Je crois qu'il faudrait qu'on ait... Le monde forestier prenne conscience de... Donc quand je parle du monde forestier, c'est-à-dire tous les acteurs qui travaillent en forêt, prennent vraiment conscience la forêt est précieuse, c'est une immense richesse, mais extrêmement fragile. Et on voit bien que tous les événements climatiques nous le démontrent tous les jours. Et je pense qu'il faut qu'on réalise que cultiver la forêt, parce que faut pas se leurrer, on cultive la forêt. Cultiver la forêt, c'est pas uniquement pour faire du bois, des planches. Ça fait partie effectivement du travail de forestier, mais pas que, et qu'on doit accorder beaucoup plus d'importance à la diversité que nous offrent les forêts, et qu'on a vraiment des missions de protection. Et qu'il faudrait peut-être la mettre un peu plus en avant qu'elle ne l'est actuellement. C'est pas que du mètre cube, c'est pas que de l'euro la forêt. C'est aussi cette richesse-là, elle est elle n'est pas monnayable, mais elle est juste gratuite et elle appartient à tout le monde.
Oui, pour notre ère.
Et notre mission, c'est de la conserver. Et là, si j'avais une baguette magique, ben c'est que je mettrais toutes ces choses-là au premier plan. Et que finalement, une forêt qui régule les cours d'eau, une forêt qui stocke le carbone, une forêt qui protège les sols, on devrait être payé pour ça. Mmh. Et pas forcément payé que pour louer une chasse et vendre du bois.
Est-ce que tu aurais des conseils pour un jeune Cévenol ou un jeune d'ailleurs qui souhaiterait devenir technicien forestier aujourd'hui ?
Le conseil, c'est de s'écouter lui. Pourquoi il veut aller en forêt ? Pourquoi il veut travailler en forêt ? Si c'est juste parce que... Il aime la chasse, se promener dans les bois. Je pense que c'est pas suffisant. Il faut que ça va plus loin que tout ça, et que donc il faut une vraie conviction. Voilà. Mais après, je pense que si les gens les femmes et les hommes qui ont ces convictions-là, effectivement, arriveront à faire ce métier-là. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est pas juste se promener dans les bois, quoi. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui préfèrent aller à l'école forestière parce que ils n'ont pas envie de rester longtemps sur les bancs d'école, apprendre, etc. Ils se disent que là, avec l'alternance, c'est-à-dire passer des bancs d'école à l'entreprise, alors ça peut être un organisme comme l'ONF ou une entreprise forestière, donc, ça leur permet d'être un peu moins souvent à l'école et un peu plus dans la nature, mais c'est pas que ça, quoi. Il y a un engagement, un vrai engagement et des vraies convictions derrière de tout ce qui fait le métier de forestier, c'est quand même assez complexe. C'est pas si simple.
Merci Alain. Et ben justement, on va en venir du coup pour achever cet échange au petit mot forestier qu'on demande à chacun de nos invités. Est-ce que tu aurais un petit mot forestier à ajouter ? Ça peut être un vœu, une anecdote, un souhait.
Un conseil. C'est un souhait très personnel. C'est que je continue quand même un peu à côtoyer le monde forestier. Alors que je le quitte de façon professionnelle. Mais par ailleurs, je serais toujours très content d'avoir à me confronter un peu à la forêt et à ses enjeux, quoi.
Tu resteras un homme des bois.
Je pense.
Merci Alain.
Merci.
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 Plantes et animaux des bois.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Vous êtes toujours sur Radio Vartas 107FM et on retrouve Aymeric Sulmont, donc toujours garde moniteur au Parc National des Cévennes, pour sa rubrique Plantes et animaux des bois.
Eh bien, je voulais enchaîner sur ce qu'a dit Alain. Et rebondir sur tout ce qu'il a dit, c'était très intéressant. Je valide tous ces petits moments de bonheur, moi aussi je les partage en forêt. Je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit, sur ce qui est important de garder dans cette forêt, et notamment la biodiversité face au changement. Un des meilleurs atouts pour une forêt, c'est d'abriter un nombre énorme d'espèces. Plus le nombre d'espèces est important, et plus il y a des chances que certaines s'en sortent. Et moins une forêt
et riche en espèces, et moins elle s'en sort face à des changements. Et on peut le voir dans des forêts qui sont monospécifiques, comme on en a vu sur le Causse ou sur les Cévennes. Une seule espèce d'arbre dans une forêt, ça pose un souci face à une invasion de chenilles processionnaires, par exemple. Donc là, c'est une invitation à faire des forêts diverses, surtout dans cette période-là. Bon, ça, c'était un petit message. Tu as parlé d'ancienneté de forêt, et du coup, ça m'a inspiré. Il y a plein d'espèces, on en a beaucoup parlé, et nous, on a beaucoup recherché ces espèces, les espèces qui sont dites de forêt ancienne. Avec la définition forêt ancienne, c'est pas la forêt primaire, évidemment. On a une définition très administrative de la forêt ancienne dans nos établissements. C'est une forêt qui apparaît déjà dans les premières cartes précises de France, c'est-à-dire 1820-1850, à l'époque où on considère que c'est le minimum forestier, c'est-à-dire avant le début de l'exploitation intense du charbon qui a laissé tranquille nos forêts. C'est à partir de cette époque que la forêt a repris un peu d'ampleur en termes de surface. Et donc, quand une forêt était présente et qu'elle est encore présente aujourd'hui, on dit qu'elle est forêt ancienne. Et nous, on recherche toutes les espèces qui sont indicatrices de ça. Et une classique qui résonne avec l'époque qu'on est en train de traverser, c'est tout simplement le muguet en Cévennes. Je crois que j'en avais déjà parlé. Et le muguet est très rare en Cévennes. Et à chaque fois qu'il est présent dans les forêts cévenoles, on peut assez facilement remarquer que c'est complètement relié à l'ancienneté de la forêt. Et ça s'explique tout simplement parce que le muguet, si vous en plantez dans votre jardin, au bout de quelques années, vous allez voir s'étendre la station, le muguet se répand, et plus ça fait longtemps que vous l'avez planté, plus la station et l'étendue du muguet, sauf si vous l'avez taillé, si vous avez coupé, enlevé les racines, plus il s'étend. Donc il s'étend par des racines, en fait, par les stolons qui se déplacent, et donc des forêts où il y a des grandes étendues de muguet sont des forêts anciennes, le plus souvent. Et on a ça pour beaucoup en fait d'espèces qui s'étendent comme ça. Il y a un certain nombre de graminées en forêt ancienne qui sont indicatrices. Voilà, ça c'est pour le petit côté printemps. Donc muguet, moi ça m'évoque, j'ai un petit bouquin, j'aime bien faire un lien avec ce muguet. C'est je vous en ai déjà parlé, le petit langage des fleurs. Le muguet, évidemment, c'est le retour du bonheur. Avec les premières brises de printemps, au moment où les oiseaux reprennent leur chant joyeux, quand les bourgeons gonflent leurs écailles et vont s'épanouir, le muguet sort de terre et monte ses élégantes clochettes renversées à l'odeur suave. Les fleurs desséchées et pulvérisées sont un puissant sternutatoire. Ça, je ne savais pas. C'est-à-dire que ça te sternutatoire, c'est un truc qui fait éternuer.
Ah oui.
Et par contre, je déconseille de boire l'eau des bouquets de muguet. C'est vraiment une plante très toxique à l'état frais. Et qui dit muguet, en fait, dit printemps. Et printemps, moi, ça m'évoque une autre plante. J'avais envie absolument d'en parler. C'est un petit peu relié avec le monde de l'ancienneté. Je vais expliquer pourquoi. C'est l'anémone. L'anémone et notamment la pulsatille, c'est vraiment la plante qui va fleurir là tout début mai, donc au moment où cette émission va être entendue. Et donc j'invite les gens à observer cette espèce parce qu'elle est devenue très rare, la pulsatille. Je ne sais pas si tout le monde voit à quoi ressemble la pulsatille. C'est du groupe des anémones, mais qui fait une belle cloche qui retombe un petit peu avec des pétales violets, tout couvert de poils. Comme si ses poils servaient un petit peu à protéger du froid, parce qu'elle sort à la fin de l'hiver, au tout début du printemps en général. Et cette pulsatille est devenue très rare, parce que c'est une plante qui vit dans les endroits maigres, et qui vit aussi dans des endroits ventés. C'est pas pour rien qu'elle est dans des endroits ventés, parce que les graines qu'elle produise sont disséminées par le vent. Donc s'il n'y a pas de vent, a priori la plante n'a pas pu arriver là. Et donc on l'a précisément sur toutes les sommets ou les crêtes, par exemple du Mont Lozère, de l'Aigoual, et sur toutes les corniches ou les hauts de collines du plateau Cosnard.
Alors
pas en forêt ancienne, ça n'a rien à voir. Non, d'accord. C'est bien une plante. Alors du coup, je sors un peu de la forêt, j'ai honte. Mais il y a un lien avec l'ancienneté. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est des milieux qui
quand il y a la pulsatille, c'est indicateur d'une longue continuité du milieu. Mmh. C'est-à-dire de l'ancienneté du milieu qui n'a pas été touché, qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été labouré, qui n'a pas été
remué,
où on n'a pas apporté de fumier ou de choses comme ça. Parce que c'est une plante qui ne supporterait pas ça. Et voilà en quoi il y a le lien avec l'ancienneté. C'est pour ça que... Donc il y a comme ça plein de plantes. En fait, la plupart des plantes qui sont aujourd'hui rares et qui deviennent patrimoniales et même protégées sont assez souvent des plantes qui sont indicatrices d'une ancienneté. Et comme si l'homme, dans son développement économique, avait du mal à essayer de conserver les choses qui sont là depuis longtemps. Et donc ces plantes sont intéressantes parce qu'elles indiquent ça. Et c'est important de savoir où il y en a pour essayer de préserver ces milieux qui sont là depuis très longtemps. Donc j'ai toujours mon petit bouquin parce que l'anémone a des petites choses à nous dire. Alors il y en a plusieurs d'anémones, c'est compliqué de parler d'anémone. Anémone, vous savez que c'est lié au vent.
Ah ouais.
Anémone, c'est
anémomètre.
Anémomètre, ah ouais, voilà, on dit. C'est lié à une déesse. Alors je vous explique, je vous donne. Dans ce bouquin, c'est un peu dommage. L'anémone est signe d'abandon et je vais vous expliquer pourquoi. Parmi les nymphes qui ornaient la cour de Flore, il y en a une qui était si belle qu'elle éclipsait toutes ses compagnes. C'était Anémone. Zéphyr et Borée, toujours en guerre, sentirent encore la haine qui les divisait devenir bien plus forte quand ils aperçurent que tous deux soupiraient au pied de la charmante Anémone. Malheureusement pour la nymphe, Flore, ayant été le témoin involontaire d'une querelle entre les dieux, découvrit qu'elle avait une rivale dans le cœur de son volage époux. N'écoutant que son courroux, elle changea Anémone en une plante qui fleurit avant le printemps. Ainsi abandonnée de Zéphyr, l'anémone est livrée sans défense aux dures caresses de Borée. Borée, c'est un vent assez violent en général. Qui, n'ayant pas réussi à s'en faire aimer, l'agite, l'entrouvre et de dépit la fane et disperse ses pétales loin. C'est toujours un peu triste, la mythologie grecque, c'est assez rude sur ces histoires d'amour, mais bon, voilà, c'est ce qu'inspire Anémone. Et effectivement, Anémone a des fruits, je le disais tout à l'heure, qui sont surmontés d'une longue aigrette qui prend le vent. Et c'est assez joli de voir ces aigrettes s'envoler. On a encore dernière petite anecdote sur une répartition. Une des plus rares plantes du Mont Lozère, c'est la pulsatille du printemps, qui est absolument magnifique. C'est des pétales plutôt blancs, légèrement lavés de rose sur le revers, très velu, mais beau, plein de petits poils dorés. Vous avez vraiment l'impression de quelque chose qui a été enveloppé dans de l'or. C'est très beau quand ça sort, et ça fleurit fin avril, début mai, tout autour du col de Finiel notamment. Et quand on étudie précisément la répartition de cette plante, eh bien on s'aperçoit qu'il y a d'autres petites stations plus éparses dans un alignement qui est précisément celui des vents dominants, qui sont plutôt vers le nord au col de Finiel. Et donc on retrouve du coup des stations dans l'alignement un petit peu plus au sud du col de Finiel, sur un autre rocher on va retrouver, et un petit peu plus loin comme ça. On a toute une poche en fait qui est liée carrément au vent dominant, qui a dû disperser les aigrettes de cette anémone qu'on appelle l'anémone de printemps, qui est vraiment c'est la seule localité en fait du parc, cette zone là on a plusieurs stations, mais tout est concentré sur quelques kilomètres carrés. Voilà les petites anecdotes botaniques du jour
sur le muguet d'anémone. Merci Émeric Simon.
À bientôt.
Et voilà, cette émission de Palabres en forêt s'achève. On vous retrouve bientôt. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Au revoir Margot.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Palabres
en forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès.
107